Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h16, le petit déjeuner politique. Ce matin, c'est Nathalie Loiseau, députée européenne, présidente de la sous-commission Sécurité-Défense et membre d'Horizon.
Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour.
Le grand flou autour du prochain gouvernement et du Premier ministre. Quelle place pour Édouard Philippe et son parti Horizon, dont vous faites partie? Les nouvelles menaces de Poutine, les tirs sur Kiev hier soir, les pénuries en Europe, autant de sujets que nous allons aborder. Commençons donc par l'escalade en Ukraine. Vous étiez à Boutcha, près de Kiev, il y a de ça quelques jours. Poutine menace, Biden réplique avec davantage d'argent débloqué, a priori. Hier soir, il y a eu ces tirs, ces bombardements sur un immeuble à Kiev, au moment où il y avait la visite d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. C'est quoi? Ça correspond à quoi? Une forme de provocation?
À l'évidence. On voit aujourd'hui que la Russie n'a pas de parole. On voit aujourd'hui que les choses les plus basiques, le régime de Vladimir Poutine ne les respecte pas. Antonio Guterres est un homme de bonne volonté, qui a commencé son voyage par Moscou, qui arrive à Kiev alors que la Russie avait indiqué vouloir se concentrer sur l'est de l'Ukraine. Cinq missiles qui sont tirés à proximité d'Antonio Guterres, mais surtout sur...
Pas sur lui, il n'a pas été visé directement.
Bien sûr que non.
Mais ça correspond à quoi?
Attendez, ce sont des zones résidentielles qui ont été visées. Ouais. Ce sont des civils qui ont été visés à Boutcha, où j'étais. Ce sont des zones résidentielles, ce sont des civils qui ont été arrêtés, torturés, violés, des enfants, des bébés, tués, exécutés, des civils. Mais où est-ce qu'on est?
Alors, Vladimir Poutine promet une riposte forte et foudroyante, a-t-il dit, s'il y a une intervention extérieure. C'est une allusion, évidemment, à l'OTAN et puis à Joe Biden qui veut fournir davantage d'aide. Comment vous l'interprétez, ça?
Alors, Vladimir Poutine, depuis le début, n'a qu'une arme, si j'ose dire, c'est l'intimidation. La tentative d'intimidation des populations ukrainiennes, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, y compris après la découverte de ces atrocités, c'est que, au contraire, il soude encore la nation ukrainienne contre lui. Il essaye d'intimider l'OTAN. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la Suède et la Finlande veulent entrer dans l'OTAN. Il n'a pas d'autre discours aujourd'hui que « retenez-moi ou je vais faire un malheur ». Le problème, c'est que le malheur, il est déjà en train de le faire. Le problème, c'est que la guerre qu'il a déclenchée sans raison dans un pays qui ne le menaçait pas.
Sans raison. Pour lui, il y avait des raisons, quoi.
Oui, mais sans raison, Patrick Roger. Sans raison. L'Ukraine ne menaçait personne. Ouais, L'Ukraine n'était pas dans l'OTAN. Ce qui lui était insupportable, c'était que l'Ukraine soit une démocratie. Cette guerre aujourd'hui,
et
ça n'est pas...
Et que les Américains soient quand même présents, effectivement, en Ukraine, derrière le régime, en fait, ukrainien. Quoi.
Mais
et
pas
ça,
du tout avait... Mais attendez, c'est pas les Américains, c'est les Européens. Vous allez...
Il y avait des Américains,
mais
Nathalie
il y
Loiseau,
avait surtout dit... une envie de rejoindre l'Union Européenne. Oui. D'ailleurs, on a entendu l'autre jour Vladimir Poutine dire « Je ne veux pas que l'Ukraine soit le contre-modèle de la Russie ». Mais c'est déjà le cas. L'Ukraine a un grand défaut aux yeux de Vladimir Poutine. Elle n'a pas la nostalgie de l'ancienne Union soviétique. Ça tombe bien, nous non plus. Elle a envie de rejoindre l'Union européenne. En quoi est-ce que c'est une menace de guerre pour Vladimir Poutine ?
Peut-être pas toute la population ukrainienne. On sait qu'à l'Est, elle était quand même beaucoup plus partagée parce qu'il y a une partie russe. Ce qui est vrai aussi, en partie quand même.
Patrick Auger, j'étais à Mariupol. Oui. Les gens de Kharkiv, les gens de Mélitopol sont des russophones. Mais vous pouvez être russophone et ne pas avoir envie que votre pays soit envahi, bombardé et détruit par votre voisin. Et c'est ça la réalité de la nation ukrainienne aujourd'hui.
Avec quand même ce que veut faire Joe Biden, c'est-à-dire débloquer 33 milliards à peu près d'argent pour des livraisons d'armes, notamment.
Alors c'est 20 milliards pour les livraisons d'armes.
Voilà, c'est ça.
Si j'ai bien entendu ce qu'il disait.
C'est ça. Mais est-ce que du coup il ne rentre pas un peu plus dans une notion en fait de guerre, de conflit, d'aggravation de ce conflit?
Alors on va essayer de ne pas perdre la boussole. Celui qui est entré complètement dans une guerre, c'est Vladimir Poutine, c'est la Russie. Avec toutes les atrocités dont nous avons parlé, avec des bombardements. En ce moment, Mariupol, c'est au moins 50 bombardements par nuit. C'est-à-dire que chaque jour, Mariupol subit l'équivalent d'une arme nucléaire tactique. Rendez-vous compte. Ce que fait les États-Unis, effectivement, à un niveau massif qu'ils peuvent se permettre. Ce que font un certain nombre de pays, dont la France, à un autre niveau. Ça n'est pas entré en guerre, nous l'avons dit depuis le début. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais nous défendons un pays, une population qui est soumise à un feu de bombe, sans raison, au mépris du droit international. C'est ça la situation.
Et est-ce qu'il n'y a pas un nouveau risque en fait, d'escalade, quand même, justement, avec ça? On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine.
Je ne prétendrai jamais être dans la tête de Vladimir Poutine. En revanche, le risque d'escalade, c'est si nous restons les bras croisés. Parce que si vous entendez ce qui se dit, par exemple, à la télévision officielle russe aujourd'hui, russe, ouais. Et on sait que les médias russes sont totalement sous contrôle, on vous parle de menacer les États baltes, les États du nord de l'Europe. On vous explique qu'en réalité, si l'agression contre l'Ukraine fonctionne comme Vladimir Poutine l'espère, après, ça continue. Quand vous allez en Ukraine, les gens vous disent en permanence « You are next », vous êtes les prochains. Donc le risque d'escalade, c'est de laisser faire Vladimir Poutine.
Mais il y a la menace nucléaire, là, quand même.
Ah, écoutez, la menace nucléaire, c'est pas la première fois. Malheureusement, non, Vladimir Poutine l'a brandi. Le principe de la dissuasion, c'est que la guerre nucléaire, c'est une guerre qu'on ne mène pas et qu'on ne gagne pas. Et ça, tout le monde, y compris les généraux de Vladimir Poutine, y compris son ministre de la Défense, y compris Vladimir Poutine lui-même, le sait.
Oui. Nathalie Loiseau, vous, en tant que députée européenne, qu'est-ce que vous attendez après ce qui s'est passé justement hier soir, ce tir de provocation, ces tirs de provocation? Quelle attitude faudrait-il adopter?
Moi, j'attends à ce que l'Europe fasse encore davantage pression économique sur la Russie. Nous avons décidé de ne pas entrer en guerre, et nous avons raison. Nous avons évidemment comme premier mandat de protéger nos concitoyens. Plus de pression sur la Russie, plus d'aide à l'Ukraine pour que la guerre se termine plus vite. Parce que cette guerre, ça n'est pas une guerre mondiale, mais c'est une guerre qui a des conséquences mondiales. L'Ukraine est le grenier à blé du monde entier, on le sait. Aujourd'hui, vous avez des pays qui risquent d'être en pénurie grave, pas de la faute de l'Ukraine, parce que dans les zones où il n'y a pas de bombardement, vous voyez aujourd'hui les paysans qui cultivent leurs champs, mais de la faute de l'agression russe. Il faut que cette guerre s'arrête pour le bien de tout le monde. Oui. Et puis on ne peut plus supporter ces morts, ces blessés, ces enfants terrés dans des abris souterrains depuis 60 jours à Mariupol. Oui. Honnêtement, ça fend le cœur.
Et est-ce qu'il ne risque pas, avec le temps finalement, d'avoir une division également en Europe? Notamment, par exemple, quant au gaz
Alors
qui
c'est
vient,
le calcul
évidemment.
Que tente en permanence Vladimir Poutine, on l'a vu depuis le début, il a cru qu'il allait diviser l'OTAN, il a cru qu'il allait diviser l'Union Européenne. Ouais. Regardez ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce pari-là, il a échoué à chaque fois. C'est pas un joueur d'échecs, c'est Kasparov qui le dit, il respecte aucune règle, c'est pas un joueur d'échecs, c'est un joueur de poker. Et vous savez, au poker, parfois vous perdez.
Oui, vous perdez. Mais parfois, l'adversaire ne sait pas trop quelle attitude adopter en même temps dans cette partie. Et l'Allemagne, par exemple, qui dépend beaucoup en fait de la Russie sur le gaz, ne veut pas aller jusqu'à cet embargo.
Écoutez,
même nous, en France, on a des difficultés face à ça aussi.
Regardez ce qui s'est passé avec l'Allemagne. Ouais. C'est toujours facile de se gausser, de dire ils sont lents,
non,
etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Allemagne a décidé d'envoyer des véhicules blindés anti-aériens en Ukraine. C'est une révolution culturelle pour l'Allemagne. Il faut mesurer le chemin parcouru. Embargo sur le charbon, on y est. Embargo sur le pétrole, je suis assez confiante qu'on y arrive assez vite. Évidemment, moi, je voudrais que ce soit plus rapide. Et c'est toujours lent d'être à 27, mais je suis assez confiante qu'on y arrive assez vite. Sur le gaz, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut, nous, décider, décréter un embargo sur nos achats de gaz? Ou est-ce qu'on veut que ce soit Vladimir Poutine qui décrète un embargo sur ses ventes de gaz à l'Union européenne? Je pense que si on a un peu de fierté, un peu de respect pour nous-mêmes, c'est à nous de prendre la décision.
C'est à nous de prendre la décision. Mais alors, quelle décision? De dire on coupe, on arrête? On ne peut pas sur le gaz. On ne peut
bien
pas,
sûr
en fait,
que si
aujourd'hui.
On peut, d'abord,
LG est toujours aussi implanté, en fait,
mais
vous
les
savez,
réserves,
là-bas.
Les réserves sont pleines. Ouais. Deux, il y a des fournisseurs alternatifs, et tout le monde y travaille depuis des semaines. Et puis trois, le but, c'est pas que ça dure éternellement.
Oui,
but, c'est que Vladimir Poutine ait enfin beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans ce qu'il fait.
Donc, vous dites qu'on pourrait aller jusqu'à un embargo du gaz russe, arrêté effectivement en France, en Europe.
Tout le monde. Alors, en France, plus facilement qu'ailleurs en Europe, puisque, par chance, le nucléaire nous permet d'être moins dépendants au gaz.
Oui, sauf que, il y avait la moitié des centrales à l'arrêt, dernièrement, là. Donc,
Bien sûr, il reste que, par rapport à nos voisins, nous sommes beaucoup moins dépendants. Et un mécanisme de solidarité pour ceux qui sont très dépendants. Si cette solidarité, on a pu la faire pour le Covid, Faisons-la pour une guerre, franchement. Oui.
Nathalie Loiseau, revenons aussi un peu en France, en politique, une semaine après la présidentielle. Je rappelle que vous avez été ministre. Beaucoup attendent un nouveau gouvernement. Il devait arriver là, en cette fin de semaine. Finalement, c'est reporté de quelques jours. Castex fait durable, si je puis dire. Homme ou femme, au poste de Premier ministre. Pourquoi ça prend du temps, selon vous?
Ça prend toujours du temps. Et Emmanuel Macron prend toujours son temps. Ça n'est pas la première fois que vous, malheureux journaliste, vous attendez.
Non,
que,
on n'attend pas, mais...
Les ministres, et surtout les cabinets ministériels, attendent et du coup bavassent. Et je connais par cœur ces périodes où vous recueillez des offres de conseillers inoccupés. Bon, j'ai envie de leur dire, faites autre chose.
C'est pourquoi ? C'est parce qu'ils cherchent une femme et qu'ils ne la trouvent pas ?
Oh, écoutez, je pense que d'abord, quand on cherche une femme, on la trouve. Parce que des femmes compétentes, il y en a ô combien.
Que vous verriez, vous ? Parce qu'on a beaucoup parlé d'Elisabeth Borne.
Bon, alors, il se trouve que je ne suis pas président de la République et que je n'aspire pas à l'être. Je ne suis pas première ministre et que je n'aspire pas à l'être. Donc, je ne vais pas vous dire qui je verrais.
Elisabeth Borne, ce serait une bonne première ministre ?
Écoutez, c'est une bonne ministre. Est-ce qu'elle le souhaite ? Est-ce que c'est le souhait du président ? En tout cas, on a besoin de quelqu'un, il l'a dit, qui puisse mettre en œuvre son programme et qui puisse notamment s'occuper de l'urgence écologique, dont je regrette qu'on ait si peu parlé pendant la campagne de la présidentielle, et dont nos compatriotes savent qu'elle est là, et ont envie qu'il y ait un gouvernement qui prenne les choses à bras-le-corps.
Oui, c'est ça. Avec l'Europe aussi, puisque vous êtes députée européenne, quand par exemple, les décisions sur la voiture se prennent avant tout à Bruxelles.
Il y a une dimension européenne, bien sûr. Et les deux doivent aller ensemble. C'est pour ça que c'est important aussi que Emmanuel Macron ait une délégation forte au Parlement européen. Je suis heureuse d'en être, pour qu'on puisse avancer du même pas sur des enjeux qui ne savent pas ce que c'est qu'une frontière. Le réchauffement climatique n'est pas au courant qu'il y a des frontières nationales.
Non, mais en fait, il y a des frontières pour les taxes. Hein. Ça, on le sait, quoi, quand même, en Europe, quoi, dans beaucoup de choses, quoi.
Alors,
on
n'a
pas les mêmes taxes en Allemagne ou en France pour l'achat, par exemple, de voitures, puisqu'on parle de transport.
C'est vrai, et vous avez raison. Le principe qui fait que chaque réforme fiscale au niveau européen doit se faire à l'unanimité est un mauvais principe.
Oui. Vous êtes membre du Parti Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Les relations entre l'ancien Premier ministre et le chef de l'État seraient tendues en vue des législatives. Edouard Philippe, on le comprend, il voudrait peser, quoi, hein, c'est ça, pour ces législatives.
Alors, moi je pense plutôt que la majorité a besoin d'Edouard Philippe et de candidats Horizon. Je pense que ce qu'on doit donner aujourd'hui à Emmanuel Macron, c'est la plus large majorité possible pour pouvoir gouverner pendant 5 ans, pour que le pays ne reste pas à l'arrêt. On sait que Edouard Philippe est extrêmement populaire, on voit, et je m'en réjouis, que Horizon a un ancrage local extrêmement fort, extrêmement réel, avec des maires qui sont des gens écoutés. Quand on a la chance d'avoir Kylian Mbappé dans son équipe. On part pas dans un match en le laissant au vestiaire. Ouais. On sait très bien que à chaque préparation de législative, dans les partis d'un même bloc, ça tiraille. Regardez à gauche, je ne les envie pas.
On va y revenir dans un instant.
Regardez à l'extrême droite, là je ne veux pas le savoir. Mais ça tiraille, c'est normal. Il est normal, légitime et positif pour la majorité que Horizon prenne toute sa place à l'Assemblée. Horizon a pris toute sa place dans la campagne. Ouais. Regardez le nombre de réunions publiques, de meetings qu'a fait Edouard Philippe. Quel est le plus gros meeting après celui de la Défense Arena qui a eu lieu pendant la campagne ? C'était Nice avec Edouard Philippe et Christian Estrosi.
Oui, donc il doit y avoir un candidat unique de la majorité, soit La République En Marche, soit Horizon, mais pas deux en même temps, quoi.
Ah bah, s'il y a un accord entre les membres de la majorité, il y aura un candidat unique et c'est souhaitable. Oui. S'il n'y a pas d'accord, on ne peut rien garantir.
Oui, Edouard Philippe, puisque vous le voyez en fait souvent, quelle est son envie en fait aujourd'hui ?
Toujours la même.
C'est-à-dire ?
D'être utile.
Oui.
D'être constructif.
Mais d'être utile où ?
Dans la majorité.
Pas au Havre, oui.
Dans la majorité. De peser dans la majorité, de lui apporter, et on voit bien ce qu'il apporte à cette majorité, de porter une voix, de porter une réalité qui est là, qui existe. Ces hommes, ces femmes du centre droit qui ont voté Emmanuel Macron, qui se reconnaissent avec Emmanuel Macron comme président, mais qui ont aussi des priorités sur l'éducation, sur les finances publiques, sur beaucoup de sujets, qui ont envie d'être entendus. Et c'est une richesse pour la majorité.
Oui, on parlait de la gauche. Le PS vient de toper, si je puis dire, ce matin avec les Insoumis. Comment vous jugez cet accord ?
Écoutez, c'est leur choix. Je n'arrive pas à comprendre qu'un parti socialiste qui est pro-européen top avec un parti d'extrême gauche qui est anti-européen, que un PS qui est préoccupé par la situation en Ukraine, j'ai vu Anne Hidalgo, elle est allée à Kiev juste après moi, puis stopper avec un parti qui explique depuis
ce
de nombreux...
Ce n'est pas vraiment elle, quoi, hein, ce sont d'autres membres du PS. Ouais.
D'autres membres du PS, bah, écoutez, j'espère quand même qu'ils ont les mêmes valeurs fondamentales que ce que le PS porte depuis des années. Pour moi, le PS, ça a été Jacques Delors, ça a été Michel Rocard. C'est certainement pas quelque chose de compatible avec Jean-Luc Mélenchon. Ça les regarde, ça n'est pas ma famille politique, mais je trouve vraiment que sur le plan des idées, c'est pas crédible.
Mais le PS va disparaître en tant que tel, s'il se met derrière.
Écoutez, j'ai pas de boule de cristal, mais je ne suis pas heureuse de voir que des partis qu'on a dit de gouvernement préfèrent se saborder en allant vers les extrêmes. Ils ne rendent pas service à la démocratie. Et je dirais plus largement, on reproche en permanence à Emmanuel Macron d'être le responsable de la montée des extrêmes. Quand vous voyez le PS se mettre à genoux devant Jean-Luc Mélenchon, je pense que les responsabilités, elles doivent aussi être cherchées de ce côté-là.
Merci Nathalie Loiseau, députée européenne et membre d'Horizon, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio.
Et bien sûr, vous pourrez commenter cette interview au 0826 300 300 sur nos comptes Twitter et dans un instant, la revue de presse.